Bonjour, c'est Tony Moreno, vous êtes chez BioWare et vous écoutez le Star Wars Universe Show.
You should all consider yourselves to be in my power.
Bonjour à tous, et rebonjour à ceux qui viennent d'écouter la première partie de cette émission consacrée à The Old Republic. Nous recevons dans cette émission deux personnes travaillant chez BioWare, Emmanuel Luzinski et Antonio Moreno. Dans cette deuxième partie, nous aborderons les questions de l'environnement de jeu, du gameplay, les phases de jeu spatiales, le scénario et l'histoire plus globale du jeu, et enfin des questions d'actualité en rapport avec les annonces qui ont été faites à l'E3. En avant pour cette deuxième partie. Je vais laisser la parole à Schlack pour poser des questions sur le design, l'environnement du jeu, tout ça.
Tout à fait.
Alors, je vais commencer par une question sur l'aspect purement graphique et technique. On entend souvent dire ce jeu, il a des graphismes cartoon qui sont vraiment très simples. Bon, il a été dit à un bon moment qu'on a choisi un design un peu épuré, stylisé, pour permettre à beaucoup de personnes de jouer, même avec des ordinateurs peu performants. Mais cependant, avec la mise à jour 1.2, on a vu une augmentation de la qualité graphique du titre. Dès lors, on s'est demandé, la communauté, pourquoi ne pas avoir conçu un jeu beaucoup plus réaliste au niveau graphique et au fil des mises à jour, avoir adapté le système pour être toujours au niveau optimal.
Oui, c'est bon. Il y a un choix artistique, mais bon, il y a deux raisons pour lesquelles on a fait ce choix de graphique. Un, c'est que en effet, pour que le plus grand nombre de machines puissent faire tourner, puisqu'il y a quand même un marché très important dans les MMO, c'est pas le marché des gens qui font tourner le jeu sur l'ordinateur principal, donc un peu tous les gens comme vous et moi, mais le marché donc du deuxième ordinateur à la maison, qui est plutôt pour soit un enfant, soit donc une épouse qui va jouer au jeu également. Généralement, il y a toujours un ordinateur qui a 4 ou 5 ans de plus, qui traîne un peu dans un coin. Il est important que... Enfin, si le jeu peut tourner sur cette machine, ça augmente bien la... le marché auquel on s'adresse. Donc, c'était quelque chose qu'on voulait faire. La deuxième raison pour laquelle on a choisi ce style graphique, c'est qu'il a tendance à ne pas vieillir. Et bon, les MMO ont tendance à avoir une vie longue. Et quelque chose de réaliste, c'est bien pendant le jour, l'année où ça sort. Et puis après, ça devient quand même assez, assez passé. Et nous, l'amélioration graphique qu'on a fait sur 1.2, c'était simplement où... pour des raisons de performance, on ne montrait jamais les textures. Les textures étaient toujours un peu, étaient un peu plus floues dans le jeu, parce que bon, elles coûtent peu quand même. Elles sont très assez poussées et on les voit bien dans les conversations, mais on n'avait pas accès à ces textures dans le jeu. Donc on a un peu modifié le jeu pour les gens qui ont des très bonnes machines, pour pouvoir voir les pleines textures pendant le jeu. Mais ça, c'était assez facile. Ça ne nous demande aucun travail au niveau justement refaire les graphiques. Maintenant, essayer de refaire les graphiques chaque année pour rester à la pointe, c'est quelque chose qui aurait un coût très important. Et encore une fois, c'est un choix artistique. Et si les joueurs acceptent d'avoir un truc un peu plus épuré, c'est quelque chose qui ne vieillit pas, donc ça a beaucoup d'avantages. C'est donc la raison pour laquelle on l'a fait.
D'accord.
Si je me souviens bien, il y a également eu une mise à jour qui permettait de faire tourner le jeu sur des configurations très minimalistes. Donc il y a une nouvelle option Verilo, très basse.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on a poussé un peu vers le haut où les gens puissent découvrir des pleines textures pendant le jeu, au lieu de juste pendant la conversation. Mais la plupart de notre travail, c'est pour continuer à pousser vers le bas, pour que les gens qui ont des machines moyennes ou vieilles puissent jouer au jeu dans de bonnes conditions. Donc on a fait beaucoup de travail sur les shaders, enfin d'autres trucs techniques pour que le jeu puisse bien tourner. Bon, enfin, faut un peu en compromettant un peu de la qualité de graphique, mais bon, ça, quelquefois la réaction, le temps de réaction est plus important que la qualité de graphique. Et ça aurait été beaucoup plus difficile de partir donc avec des graphiques super détaillés, super réalistes, et essayer de pousser vers le bas. Donc c'était un choix vraiment stratégique qui, à mon avis, a bien marché, continuait donc à bien marcher. On a en effet un certain nombre de joueurs toujours qui n'aiment pas du tout le style et qui n'accrochent pas, mais c'est quand même assez limité. Au contraire, on a des retours un peu mixtes sur la qualité des textures des personnages, mais je crois que les gens, en fait, c'est plutôt le style des vêtements qu'ils n'aiment pas plutôt que la qualité des graphiques des vêtements. Mais au niveau des environnements, donc des planètes, on a généralement une réaction 100% positive, ou pratiquement 100% positive, ou la grande majorité des joueurs aiment beaucoup notre style graphique, la qualité des planètes telles qu'on les représente.
Alors, justement, en transition, vous venez de parler des goûts en matière vestimentaire. Justement, le design des armures de haut niveau, notamment les dernières qui sont sorties, celles de Black Hole et les dernières opérations, est un style assez tape à l'œil avec des couleurs assez vives. Ce genre de choses, certains disent que ça ressemble presque à des Pokémon ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est un peu éloigné de l'esprit qu'on aurait dans Star Wars.
Alors bon,
Donc,
il y a un certain nombre de raisons. Quelle est la question déjà?
qu'est-ce qui guide la réflexion au niveau du design des armures?
Bon, un certain nombre de choses. Il y a un peu un côté dans les MMO traditionnels, des vêtements qu'on obtient donc au niveau maximum en faisant des choses compliquées, en tendance à être un peu plus tape à l'œil. Donc c'est vrai qu'on a un peu parti dans cette direction. L'autre chose, c'est que les vêtements vraiment typiques Star Wars, donc les robes pour les Jedi, les armures blanches pour les soldats, etc. C'est quelque chose qu'on explore beaucoup dans la progression normale des joueurs. Donc, on essaye d'avoir beaucoup de différentes robes pour les différents Jedi, etc. Et donc, c'est quelque chose, si on continue dans cette logique ou avoir donc des vêtements relativement simples, puisque les vêtements dans Star Wars ne sont pas très, très compliqués quand même, il n'y aurait pas une grosse différence avec les vêtements que l'on trouve, enfin, les armures que l'on trouve. Par ailleurs dans le jeu. Donc il y avait une volonté certaine de faire une distinction. Maintenant, on a eu un retour assez clair que la direction qui a été prise sur 1.2 et puis sur 1.3, enfin, pardon, 1.2, justement, n'était pas forcément appréciée. Donc c'est quelque chose dont on est très conscient. Maintenant, ça prend un certain nombre de temps à faire ces vêtements, puisqu'il y a une phase de conception, suivie d'une phase de approval, donc on les envoie chez Lucas pour qu'ils soient bien, pour que LucasArts nous dise oui, ça va. Ensuite, ça revient, ça doit être envoyé aux artistes qui vont faire des modèles 3D, qui vont faire des artistes qui vont faire les textures. Enfin, donc ça prend un certain nombre de temps, et donc c'est pas quelque chose que pour arrêter à pied de poil et changer de direction comme ça. Maintenant, on m'a assuré que les prochaines seraient beaucoup plus dans la lignée de ce que les joueurs attendent, donc quelque chose de moins tape à l'œil, un peu plus proche finalement des vêtements que l'on obtient, enfin des vêtements, des armures que l'on obtient dans le reste du jeu, mais tout en essayant d'avoir une démarcation pour quand même faire un peu la frime, de dire oui, moi j'ai fait ces choses très difficiles, donc j'ai le droit de porter cette armure. D'un autre côté, on a aussi une démarche inverse où on laisse de plus en plus de liberté aux joueurs sur la façon dont ils s'habillent, la façon dont ils s'expriment par leurs vêtements. Dans 1.3, on a des systèmes qu'on introduit pour rendre les vêtements sociaux beaucoup plus utiles. Et donc, c'est quelque chose où on continue à également, encore une fois, augmenter la liberté un peu des joueurs.
Ensuite, on a parlé tout à l'heure des environnements des planètes qui plaisent beaucoup aux joueurs. On s'est étonné qu'il n'y a pas de cycle temporel. Par exemple, sur Nar Shaddaa, il fait nuit tout le temps. Oh. Pourquoi cela? Est-ce que vous envisagez d'introduire une certaine temporalité avec peut-être des influences sur le gameplay, par exemple, je ne sais pas, sur Coruscant en plein jour, les malfrats, on les trouve beaucoup plus difficilement ou ce genre de choses.
Ça me ferait plaisir. C'est quelque chose qui m'a toujours manqué. C'était une discussion assez tôt finalement dans le projet où d'un côté il y avait un certain nombre de designers qui voulaient avoir un système classique de jour-nuit avec donc justement des changements dans le gameplay où les planètes sont un peu plus peut-être dangereuses pendant la nuit, etc. Et d'un autre côté, la volonté d'avoir une grande, grande qualité graphique des planètes, où si l'artiste a le choix de l'heure de la journée, de l'angle du soleil, etc., il va pouvoir s'exprimer et donner beaucoup plus d'ambiance sur chaque planète. Bon. Donc c'était un choix qui était fait, pour le mieux, pour le mal. Bon, c'est vrai que ça nous donne des planètes avec une qualité graphique bien supérieure de ce qu'on aurait autrement. Mais c'est vrai qu'on perd certains sens d'immersion dans le jeu où, comme le temps est statique, eh ben, on a moins l'impression d'être dans un vrai endroit. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Maintenant, de changer, c'est intéressant comme question. Le moteur graphique le supporte bien. Donc, ça ne serait pas un problème technique, mais plutôt un problème de design où on pourrait assez facilement avoir un cycle jour-nuit. Maintenant, si ça n'a aucune influence sur le monde, ça n'est pas forcément intéressant non plus. Si les mêmes non-player characters, les NPC, les personnages non-joueurs sont tout le temps devant leur échoppe, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Enfin, on perd un peu aussi du côté simulation si on fait ça, si on le fait trop rapidement. Donc, bon, ce n'est pas une priorité. Je ne dis pas qu'on le fera, même si on le fera un jour. D'un autre côté, c'est quelque chose. D'ailleurs, de temps en temps, c'est amusant. Il y a des bugs où le ciel disparaît, par exemple sur Tatooine, donc le ciel devient tout noir et les gens disent: Oh, c'est super, Tatooine la nuit. Donc, il y a une demande. Il y a une demande des joueurs. Il y a des possibilités de gameplay intéressantes. Donc, c'est quelque chose où on continue à y penser. De toute façon, il faut que le jeu soit toujours frais, faut un peu de modifier pour qu'il garde l'intérêt des joueurs et puis qu'il soit compétitif avec ce qu'il y a de par ailleurs dans mon informatique. Donc ce n'est pas du tout un projet statique où ce qu'on a, c'est ce qu'on va avoir jusqu'à la fin des temps. Donc on faut jamais dire jamais.
Alors, on a parlé des armures qui sont pas assez dans l'esprit Star Wars. Et d'un autre côté, il y a des éléments qui sont peut-être un peu trop. J'explique un peu, c'est que, par exemple, les armures des soldats se ressemblent beaucoup à celles des clones des films, les croiseurs de l'Empire également. Alors, évidemment, il y a un but de toucher une communauté très général qui ne connaît pas forcément exactement la période dans laquelle on joue, mais comment est-ce que vous trouvez l'équilibre entre avoir un jeu qui touche un large public et puis respecter un peu l'univers de l'époque?
Oui, bah c'est difficile. En effet, il y a un but d'être accessible, c'est-à-dire que les joueurs qui ne connaissent pas bien le fait que ce soit la vieille République et beaucoup de choses auxquelles ils puissent se raccrocher. Il y a aussi un côté un peu clin d'œil où il est bien de montrer quelque chose qui, on voit bien, qui va évoluer à travers les âges vers une autre forme, par exemple les croiseurs. Et puis il y a le piège d'être trop dérivatif où c'est juste un peu c'est trop similaire au point de ne plus avoir de sens. Bon, c'est vrai que c'est pas facile, je dois dire, certainement. Mais d'un autre côté, je trouve qu'on a plutôt bien fait. Je prendrais l'exemple par exemple de T7, donc l'astro-droïde, bon, qui est de façon évidente quelque chose très proche de R2-D2, mais d'un côté qui en prend l'esprit, c'est-à-dire quelque chose un peu bas, un peu comme une poubelle avec deux pieds, mais d'un côté qui est assez différent quand on regarde un peu plus près. Donc ça, c'est une des choses bien faites. Maintenant, niveau armure, par exemple des soldats, c'est vrai que il est difficile. Si on prend n'importe quelle armure un peu de jeux modernes, et puis on est peint en blanc, ça va commencer à ressembler à des Stormtroopers. Il y a pas tellement, finalement, même les armures de Star Wars, elles sont un peu basées sur des formes classiques. Par exemple, le casque de Darth Vader qui ressemble un peu à quelque chose, à un thème japonais, où il avait ces casques de samouraï un peu avec cette forme de triangle et puis un masque un peu devant. Donc il y a déjà des références. Et donc, si on essaye de faire des armures pour un peu ce genre de soldats, on va un peu toujours retrouver les mêmes thèmes. Et puis, dès qu'on s'éloigne un peu, les gens nous disent « Ah ben, c'est pas Star Wars, nous, on n'aime pas ça du tout. » C'est un retour qu'on a souvent, surtout où on essaye des choses un peu différentes pour les armures de niveau maximum. On dit « Ah ben non, ça ressemble trop à quelque chose d'autre, c'est pas plus du tout Star Wars. » Donc, notre marge de manœuvre est assez faible, finalement. Mais bon, je trouve qu'on se débrouille plutôt bien.
Au niveau de la conception des planètes, on a dans le jeu actuellement des planètes très connues, comme Tatooine, Coruscant, et d'autres inédites, ou presque inédites, du style Vos, Belsaris, et prochainement Markeb. Comment on décide quelle planète on va mettre dans le jeu? Est-ce qu'on élabore un scénario et puis on construit la planète pour que ça colle au scénario, ou bien on décide, oh, on aimerait mettre Tatooine parce que tout le monde connaît Tatooine et puis on bricole un scénario?
Oui, comment il y a des deux. Il y a des deux. Par exemple, Tatooine, c'est clair qu'on voulait Tatooine, c'est quelque chose que je trouve a été très bien fait dans le vieux jeu Knights of the Republic, donc sur Xbox, où on avait bien l'impression d'être sur Tatooine. Donc on voulait un peu faire la même chose, avoir un endroit où on regarde et tout de suite on sait exactement où on est, on a c'est un peu cette nostalgie des films et autres. Donc bon, c'était important qu'on ait Tatooine, c'est important pour Star Wars. D'autres endroits comme Coruscant, on voulait vraiment l'avoir parce que c'était un peu un challenge d'avoir une cité-planète. Bon, maintenant, si on lui a fait justice, c'est une autre question. Mais bon, donc il y a des planètes où on veut cette planète. Bon, comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans l'histoire? Donc ça, c'est clair. D'un autre côté, il y a des planètes comme Vos, où c'est plutôt le contraire, où on voulait... c'est plutôt basé sur un scénario où on voulait un endroit où la connaissance de la force soit différente, où les gens ont une théorie différente, qui n'est pas du tout du côté lumière obscure, mais donc leur propre interprétation de la force. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui marchait particulièrement bien avec les planètes existantes, et c'est pour ça qu'on a pris la décision de créer une nouvelle planète. D'un autre côté, il est vrai que quand on a besoin, on dit bon, ben, on a besoin d'une nouvelle planète pour un peu continuer le jeu. Notre première réaction, c'est un, est-ce qu'on a une planète très cool qu'on a toujours voulu mettre? Est-ce que ça va marcher? Et si ça ne marche pas, est-ce qu'il y a une planète qui existe quelque part déjà dans la lore, donc dans l'histoire de la guerre des étoiles? Puisque c'est toujours plus agréable de faire des clins d'œil à des choses existantes plutôt que de créer des choses de toutes pièces comme pour Vos. Et puis si on ne trouve rien qui ne marche, et c'est là où on en crée une. Mais c'est un peu de dernier recours.
On va passer à une question sur le système de PVP, de joueur contre joueur.
Oui.
Dans la communauté est assez active. Alors, on a dans un mode joueur contre joueur, la quantité d'objectifs possibles généralement assez limité. Dans tous les jeux de combat, toujours un peu le même genre de choses. Si on doit contrôler des points, si il faut les modes capture flag, capture drapeau ou ce genre de choses. Donc là, par exemple, actuellement, on a Denova et Alderaan qui fonctionnent quasiment sur le même principe de contrôle de points. Alors, on se demandait si à l'avenir, vous pensez plutôt mettre encore plus de zones de guerre, même avec le même genre de système, ou essayer de diversifier celles qui existent déjà. Par exemple, pour le Hot Ball, vous pourriez imaginer que les obstacles pourraient changer de manière aléatoire ou ce genre de choses pour donner un nouvel impact.
C'est une bonne question. Il faut que j'explique deux, trois choses. ce n'est pas une bonne idée d'avoir trop de scénarios différents. Il y a un certain nombre où, disais, si on en avait 20 ou 30, par exemple, les joueurs n'auraient jamais de temps vraiment de faire leur tactique, de connaître la carte, etc. Donc c'est un endroit où plus n'est pas forcément mieux. C'est la première chose. Ben, maintenant, on pourrait en avoir beaucoup et puis tous les 3 mois, faire une rotation parmi celles qui existent pour finalement en avoir peu parmi un ensemble plus grand. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire en effet, mais en avoir trop en même temps n'est pas forcément une chose bonne. En fait, c'est même une chose mauvaise. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que pour nous, faire une nouvelle carte, il y a 2 aspects. Il y a créer un système de marquage de points, donc un système, et puis créer la carte elle-même. Finalement, le système de marquage de points est assez simple. Ça ne prend pas beaucoup de temps du tout. Par contre, créer la carte, ça ne prend pas beaucoup de temps non plus, mais ensuite, il y a des mois qui sont passés pour faire des réglages très fins sur cette carte, pour éviter qu'une classe puisse utiliser un saut ou un sprint ou enfin d'autres compétences pour un peu tricher ou avoir un avantage, ou que si les deux camps n'ont pas vraiment une position symétrique, si un a un léger avantage, et bien c'est quelque chose qu'il faut corriger. Donc c'est vraiment des petits réglages qui vont prendre plus de temps pour faire une carte. C'est ni la création de la carte, ni la création initiale, ni la création des règles qui vont prendre du temps. Donc, par exemple, faire une nouvelle carte de Hutball nous prendrait pratiquement autant de temps que faire quelque chose de complètement nouveau. Donc, il y a un certain nombre de scénarios, de types de règles que l'on veut introduire. On n'a pas encore fait le tour de tout ce que l'on voulait essayer. D'un autre côté, également, c'est vrai que, par exemple, Hutball est des mécaniques qui marchent quand même très bien, que certains joueurs détestent, mais la majorité des joueurs aiment beaucoup. Et donc, on aimerait bien avoir plusieurs cartes de Hutball pour un peu introduire un peu plus de diversité et puis juste pour un peu rafraîchir encore une fois le jeu. Mais voilà, donc je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais on a toujours le choix entre refaire une carte avec les mêmes règles ou faire une complètement nouvelle carte avec de nouvelles règles. Et c'est, le prix est presque le même, donc ce n'est pas là où la décision se fait. La décision, c'est qu'est-ce qui va être le mieux pour les joueurs. Est-ce que c'est d'avoir un peu plus de diversité, par exemple, juste sur Hutball, ou est-ce que d'essayer un nouveau type de jeu va être plus intéressant? Et on en a quelques-uns en prototype.
Comme par exemple.
Par exemple. J'en parle pas. On n'en parle pas, c'est toujours la même chose. C'est parce que jusqu'à que quelque chose soit fini et dans le jeu, on n'est jamais assuré de un, combien de temps ça va prendre. Puisqu'encore une fois, la création. Arriver à 80% de qualité, ça va très vite. Et on peut vraiment dire, on l'a fait plusieurs fois, on sait combien de temps ça va prendre. Par contre, les 20% de la fin, il est beaucoup plus difficile d'estimer combien de temps ça va prendre. Et puis, on ne sait jamais si on va... Enfin, donc, mieux vaut ne pas en parler. On déçoit moins que si on annonce et puis qu'on se rétracte.
D'accord. Et puis, ça fait une bonne surprise pour les joueurs quand ça sort.
Tout à fait.
C'est pour ça que des fois on préfère être du côté joueur, parce qu'il y a un petit peu l'aspect découverte, et on comprend l'impatience des joueurs comme de savoir ce qui va arriver, mais il y a aussi la surprise toujours. Moi je sais que personnellement j'ai toujours préféré être surpris, voir quelque chose d'assez inattendu, comme certaines choses qu'on a pu voir à l'E3 cette année, autour de Star Wars par exemple, que de savoir tout ce qui va arriver et tout. Ça gâche un peu l'effet de surprise, tout simplement. En parlant de Hutball, d'ailleurs, je sais que ce que tu viens de dire, Emmanuel, va ravir, ou va en tout cas motiver pas mal de structures qui sont en train de se mettre en place, justement, pour les zones de guerre classées, qui attendent pas mal de de PVP, donc de joueurs, de match joueur contre joueur, compétitif, et le Hotball s'y prête assez aisément. Ils attendent beaucoup ça. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour la communauté, quoi. Des joueurs JCJ, donc joueurs contre joueurs.
Continue toujours sur le mode joueur contre joueur. Vous aviez proposé, à côté des zones de guerre, entre guillemets fermées, le mode de joueur contre joueur dans les mondes ouverts, en particulier sur Ilome, où n'importe quel joueur présent sur la planète pouvait participer sans limite. Alors Ilome, c'était, faut dire ce qu'il en est, c'était globalement plutôt un échec. Il y a eu des problèmes d'équilibre entre les factions et puis finalement peu à peu abandonné. Est-ce que l'idée de ce genre de mode joueur contre joueur dans un monde ouvert, est-ce que c'est une idée qui a été complètement abandonnée ou ça sera retravaillé, réintroduit ou sous quelle forme et comment?
On continue, à y travailler. C'est quand même, pour certains joueurs, c'est la seule mode de joueur contre joueur qu'ils aiment. Donc on continue à y travailler. Pour donner un exemple, le but un peu de la Red Ghoul Plague, de la maladie des rats ghouls qu'on a introduit un peu de façon secrète pendant 1.2, était vraiment de tester de nouvelles de formes de conflits entre joueurs, donc de conflits spontanés. Ouvert, donc plus basé sur des événements, sur des objectifs différents, où on n'essaye pas de faire un système particulier comme un peu Idem où il y a des choses à faire, mais où naturellement les joueurs se rencontrent et entrent en conflit. Et ça a plutôt bien marché, si je dois dire. Donc ça, c'était des tests importants pour nous. On en fait des conclusions. On a aussi pris beaucoup de conclusions sur la façon dont Idom a évolué et puis la façon éventuellement à la fin Idom a échoué. Donc ce sont de bonnes leçons qu'il fallait peut-être faire, des erreurs peut-être à faire. On continue à travailler sur le sujet. On sait très bien que pour certains joueurs, c'est une fonction importante du jeu. Et puis ça ajoute beaucoup de saveur et de goût un peu à l'expérience des joueurs. C'est pas toujours tout le temps, mais de temps en temps, voir ces grands conflits s'organiser un peu de façon spontanée. Donc c'est quelque chose d'important, pas facile à faire, évidemment, mais sur lequel on travaille.
Alors justement, au niveau des conflits entre les factions, entre l'Empire et la République, ça s'exprime dans le mode joueur contre joueur, mais si on pense au mode joueur contre environnement, contre les personnages non joueurs, notamment à haut niveau les opérations et zones litigieuses, elles sont communes. C'est-à-dire que les opérations, par exemple, l'Empire et la République vont avoir le même objectif. En l'occurrence, par exemple, de contrer une menace. Mais ça paraît bizarre que d'un côté, les deux ont le même objectif, mais il n'y a pas d'interaction entre eux. Donc on se demandait si d'un côté, il pourrait y avoir à l'avenir des opérations de haut niveau où les deux factions collaboreraient vraiment entre joueurs, ou bien si au contraire, dans l'autre sens, il y aurait des opérations avec des objectifs opposés, avec éventuellement rencontres joueur contre joueur pendant l'opération, ce genre de choses.
Les deux sont de bonnes idées. Les deux, enfin, je veux dire, et on travaille sur l'un des deux. Je dirais pas lequel. en tant que prototype. Mais c'est vrai que il y a un certain nombre de pièges à éviter. C'est vrai qu'il serait beaucoup plus intéressant d'avoir des opérations uniques, beaucoup plus basées sur un peu, bon, la République va faire certaines choses, l'Empire va faire d'autres choses. Il y a un problème de justice, en fait, par cette approche. Donc, un, ça coûte deux fois plus cher, enfin bon, ça à la limite. Mais l'autre, c'est qu'on ne peut pas faire quelque chose de 100% équivalent des deux côtés. Donc, forcément, une des opérations serait plus facile que l'autre, ou aurait des meilleurs bonus et autres. Donc, et c'est quelque chose qui est très important pour les joueurs, cet esprit un peu de justice où les deux factions ont les mêmes possibilités et les mêmes difficultés. Donc, bon, ça, c'est une des raisons pour lesquelles on fait des opérations communes. Maintenant, c'est vrai que la possibilité de joindre des forces ou de s'affronter, c'est très intéressant, c'est un peu novateur, et puis ça pourrait être très amusant surtout. Donc, il y a des certain nombre de prototypes qui sont faits en ce moment pour un peu tester comment est-ce qu'on peut faire ça, quels sont les besoins technologiques et puis comment ça s'exprimerait pour les joueurs. Donc, ce n'est pas quelque chose qui devrait arriver trop tôt, mais c'est quelque chose auquel on pense tout à fait. Encore une fois, c'est une bonne idée, une bonne façon de rafraîchir le jeu.
Donc là, on a parlé des systèmes de jeu en groupe de 4, 8 et plus. Si on revient sur la partie entre guillemets un peu plus solitaire du jeu, avec notamment les histoires de classe et les scénarios planétaires, l'histoire, ça a toujours été un point majeur du jeu, et dans les autres jeux de BioWare également. Et on traverse, pendant la progression, on a des grandes histoires épiques et avec des boss cinématiques. Mais un petit défaut, c'est qu'une fois passé, on ne peut pas revivre ces événements. Le seul moyen, c'est de refaire un personnage et de recommencer. Est-ce qu'on peut envisager un système qui permettrait de revoir les grandes étapes de notre histoire ou éventuellement de les rejouer? Ça existe sur Seigneur des Anneaux Online. Est-ce qu'il y a une idée de ce genre? Par exemple, on peut penser, on a des holocrons dans Star Wars, on peut imaginer, on enregistre notre parcours et puis on peut s'y référer pour revoir ou ce genre de choses.
Il y a deux côtés, enfin plusieurs côtés sur la question. Il y a un défi technique, donc pour pouvoir faire que ça marche, et l'autre, c'est le défi de design pour que ça ait un sens, pour que ça se joue bien, etc. Bon, il est vrai que un des problèmes que moi je vois, enfin que on voit bien dans le jeu, c'est que beaucoup du contenu se fait qu'une seule fois, assez rapidement finalement, puisque les joueurs ont tendance à jouer au jeu pendant 6, 8 ou 10 heures de suite, donc ils consomment beaucoup de contenu et traversent nos mondes assez rapidement. Et puis ensuite, il n'y a pas vraiment moyen de revenir, ça n'a pas de sens de revenir sur une planète de plus bas niveau et autres. Bon, et c'est dommage parce qu'il y a du contenu à faire. Et puis, certes, parfois, vous dites, les joueurs voudraient revoir quelque chose. Bon. Donc, il y a bien quelque chose à faire là. Et on est en train de, justement, moi, je le dis toujours, mais on fait pas mal de prototypes. Et un de ces prototypes a pour but donc, de pouvoir un peu revisiter ces histoires ou ces mondes de plus bas niveau. Donc, il y a plusieurs façons donc qu'on envisage. Certaines sont assez classiques, genre dans City of Heroes, par exemple. Je crois que c'est les premiers à avoir fait ça, où on pouvait artificiellement baisser son niveau pour pouvoir jouer avec des amis de plus bas niveau. Donc, c'est une solution intéressante. Guild Wars 2, bien entendu, a un système similaire qui est automatique. Dès qu'on retourne sur une planète, son niveau descend. Niveau effectif, ce qui est d'ailleurs un système très, très astucieux. On a des idées un peu différentes, mais on réfléchit donc à ce genre de choses. Maintenant, avoir juste un système où on pourrait revoir un peu des vidéos de ce qu'on a fait, malheureusement, ça serait techniquement beaucoup plus difficile. Et puis, je crois que ce serait un peu dommage, puisqu'il serait plus intéressant de le revivre plutôt que juste de le revoir. Donc, encore une fois, tout ce que je peux dire, c'est oui, c'est bien. on est conscient des problèmes que cela résout et puis de l'intérêt d'ajouter des systèmes de ce type. Et puis, ça bénéficierait le jeu d'avoir quelque chose dans ce sens. Donc, oui, un jour, on aura quelque chose un peu dans ce sens-là.
On aura au moins eu un petit indice sur des nouvelles choses qui arriveraient, éventuellement, peut-être un jour.
Éventuellement, peut-être un jour, on aura beaucoup, beaucoup de choses.
Alors, sur l'aspect spatial, du moins, c'est quand même la guerre des étoiles. Le mode spatial, actuellement, n'est pas très développé. Est-ce que vous envisagez de le développer plus, avec peut-être des modes de jeu en groupe, en joueur contre joueur, et peut-être aussi développer comme l'avait fait Star Wars Galaxies, sortir du mode juste tunnel avec très peu de mouvement. Et puis donc, quel est l'avenir du mode spatial?
Bon, ce que je peux dire, c'est que, un, on a reçu un retour assez clair des joueurs, en fait, beaucoup de joueurs aiment le système actuel, mais n'en sont pas complètement satisfaits. C'est-à-dire qu'ils aiment ce qu'ils ont, mais ils ne seraient pas contre avoir plus. Et puis, il y en a qui n'aiment pas et qui aimeraient beaucoup plus. Enfin, le système actuel est quand même. Moi, je l'aime bien, mais bon, c'est limité. C'est un mini-jeu. Et il y aurait certainement la possibilité d'avoir quelque chose d'un peu plus un jeu qu'un mini-jeu. D'un autre côté, qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que je peux dire plutôt? On a la volonté de continuer à travailler sur le côté de l'espace, puisqu'il est important pour qu'on continue à avoir notre propre place dans le marché et puis de vraiment se différencier. Il y a quand même pas mal de concurrence et chaque jour, on a l'impression qu'il y a un nouveau MMO qui sort. Donc, il faut continuer à se différencier, continuer à augmenter un peu la valeur qu'on apporte aux joueurs. Il faut qu'on fasse ça sur nos strengths, sur nos forces, donc ce qui nous différencie beaucoup. L'espace, par exemple, est quelque chose d'assez différent de tous les autres jeux. Il y a une grande attente des joueurs. Ils sont assez clairs sur ce qu'ils aimeraient. Il y a deux, trois choses qui sont proposées, toujours les mêmes. Et on travaille sur un certain nombre de choses. C'est assez avancé. J'y joue de temps en temps. Je pense que ça va être très apprécié. Enfin, bon, on verra. Je donne pas de date pour toujours les mêmes raisons, mais bon, c'est quelque chose où, encore une fois, on a un message clair et ça fait quelque temps qu'on y travaille.
Je vais repasser la parole à Skycard pour des questions sur l'histoire et ce genre de choses.
D'accord.
Alors, au niveau du scénario, il y a plusieurs scénaristes qui travaillent sur le jeu. Est-ce qu'ils ont défini une histoire sur le long terme ou est-ce qu'ils avancent progressivement, au fur et à mesure?
Bon, il y a des deux. On a une histoire au long terme qui va beaucoup plus loin que ce qu'on a actuellement dans le jeu. Et puis ensuite, bon, ça c'est la trame qui d'ailleurs peut être changée si on s'aperçoit que bon, pour des raisons diverses, il faut le faire. Mais ensuite, bon, le travail c'est par couche. Donc on établit une trame, ensuite on va établir une histoire sur disons une planète ou sur un ensemble de planètes, et ensuite vraiment, encore une fois, passer à la couche inférieure de qu'est-ce qui se passe pour chaque classe, qu'est-ce qui se passe pour cette partie-là de la planète, etc. Donc c'est un travail un peu donc par couche, encore une fois, je ne trouve pas de meilleure image, mais avec une certaine interaction où peut y avoir des remontées où quelqu'un a une histoire, une idée très importante pour ce qui se passe dans l'histoire, et puis ça a des répercussions sur les autres histoires et même sur la trame même de ce qui se passe dans la galaxie. Donc c'est un travail assez logique, hein, finalement. Mais avec beaucoup d'interactions entre les scénaristes eux-mêmes, et puis avec donc la trame même de ce qui se passe dans la galaxie, qu'on essaye de faire évoluer au cours du temps.
Ok. Alors enfin, les fans de Star Wars en tout cas, tiennent beaucoup à avoir un univers à peu près cohérent, à avoir quelque chose de qu'on appelle canon, c'est-à-dire
Oui.
que voilà, c'est la vérité absolue. L'histoire telle qu'elle est racontée, par exemple dans Knights of the Republic, Revan était considéré comme un homme. Alors que dans le 2, l'exilé était considéré comme une femme. Alors qu'on avait le choix de choisir un homme ou une femme dans chacun des jeux.
Oui.
Là, par rapport à l'histoire qui est développée dans The Old Republic, est-ce que l'histoire canon a été définie, décidée déjà, ou est-ce que ça peut encore évoluer
Même dans. Ça évolue. Même dans The Old Republic, le canon a été établi par la suite, où il fallait bien décider si Raven était du côté obscur, du côté lumineux, s'il avait détruit la Starforge ou autre. Donc il fallait bien, à un certain moment, qu'on commence à écrire la suite, bon, il faut bien établir des choses. Donc nous, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses importantes qui se passent. Et on peut établir en disant, bon, bah, ça va être le canon, mais d'un côté, c'est assez flexible. Si on doit changer d'avis pour des raisons importantes par la suite, on se réserve le droit de le faire. Encore une fois, tant qu'on ne communique pas aux joueurs, on peut faire beaucoup de changements. Après, c'est plus difficile. Ça doit être fait de façon délicate. Mais moi, je trouve quand même que Revan devrait être une femme et ça devrait être, elle devrait être du côté obscur. Parce que quand même, c'est comme ça que je l'ai joué. Ça me plairait beaucoup plus. Mais bon, il faut faire des sacrifices parfois.
D'accord. Donc là, on va passer pour le peu de temps qu'il nous reste à ce qu'on a découvert à l'E3. On a découvert une nouvelle planète, Makeb, qui est sous contrôle Hutt. Est-ce que la mafia, le cartel Hutt, va prendre plus d'importance dans le jeu? Est-ce qu'on pourrait imaginer avoir plus tard, en plus de l'Empire et de la République, une autre faction jouable?
Une autre faction jouable. Ça résoudrait bien des problèmes, une autre faction jouable. Ce serait bien. Mais non, probablement pas. Enfin, il ne faut jamais dire jamais. C'est vrai que ce serait quand même assez intéressant, comme, encore une fois, comme rafraîchissement du refresh du jeu. Mais ce n'est pas sur la table pour l'instant. Maintenant, au niveau de l'histoire, bon, le cartel Hutt va prendre un plus d'importance, c'est certain. D'ailleurs, même en ce moment, le cartel Hutt est sur le point de racheter toutes les auction houses, donc le marché galactique GTN, Galactic Trade Network. Donc, il y a des petits changements qui se passent dans le jeu live. Et puis, il y aura plus de changements par la suite. Mais bon, je ne vais pas parler trop de l'histoire, parce que ça, quand même, les joueurs doivent le découvrir. Maintenant, une faction neutre, c'est vrai qu'au niveau PVP et autres, il y a beaucoup d'avantages d'avoir trois factions. D'un autre côté, bon, ce n'est pas quelque chose qui est simple à établir ou à mettre en jeu. Donc, on n'en a pas parlé de façon sérieuse, mais bon, on continue. On a, comme disait Antonio, on a des Wall of Crazy. Je ne dis pas ce qu'on a dessus ou ce qu'on n'a pas dessus.
D'accord. En plus de cette nouvelle planète, une nouvelle limite de niveau a été annoncée. Est-ce que ça veut dire que l'histoire des classes va aussi avancer?
Je vais pas en parler. Pour un certain pour ne pas forcément faire donc du spoiler, je déteste quand les gens parlent d'un film à l'avance et autres, donc je fais la même chose pour les jeux. D'un autre côté, également. Rajouter des niveaux, ce n'est pas un procédé très simple. Il y a beaucoup de pièges à éviter, des choses qui peuvent vraiment ne pas être très appréciées par les joueurs si on le fait mal. Et donc, un certain nombre de choses techniques sont toujours un peu en flux pour justement s'assurer qu'on fasse bien. Et donc, encore une fois, donner des détails, c'est vraiment s'inviter à se... C'est invité à des problèmes plus tard. En tant que designer, je préfère avoir la plus grosse marge de manœuvre en ne disant rien. Ça me permet de changer des choses au dernier moment pour augmenter la qualité du produit.
D'accord. Une autre question à laquelle on n'aura peut-être pas de réponse. il y aura forcément, un jour ou l'autre, une grosse extension, la version 2.0 du jeu. Est-ce qu'elle aura un contenu scénarisé aussi important que le jeu quand il est sorti? Donc à savoir trois chapitres et un prologue d'histoire de classe.
On n'a pas parlé d'extension, donc peut-être pas. D'un autre côté, on a déjà dit pendant le Guild Summit, il y a quelques mois, que notre volonté, c'était d'introduire de l'histoire de façon plus classique. C'est-à-dire qu'introduire de l'histoire à travers des flashpoints, des opérations, enfin, ce côté multijoueur, c'est bien. Mais l'attente des joueurs, c'est d'avoir des histoires plutôt du type de ce qu'on trouve dans Mass Effect ou Dragon Age ou des classes ou des world arcs du type... de l'histoire de Revan dans The Old Republic, donc une chose de plus personnelle aux joueurs. Donc on ne dit pas la forme que ça va prendre, mais on s'est engagé à donc introduire de l'histoire de façon plus classique.
nous a annoncé l'arrivée des Qatars dans le jeu.
Oui.
Comment est-ce que vous avez choisi les Qatars et pas d'autres espèces?
C'est pas moi qui ai fait la sélection, donc j'aurais pas forcément choisi les Qatars. Moi, j'aime bien les Togruta, j'aime bien d'autres. Mais bon, les Qatars ont été faits. Je pense que c'est l'attente. Un, l'attente de certains joueurs. Deux, qu'est-ce qu'on peut faire dans les temps. Trois, la qualité des assets que l'on a déjà. On a fait des listes de races que l'on aimerait avoir, enfin de species, pardon, d'espèces. On a fait des listes de façon différente, c'est-à-dire les plus attendues par rapport aux les moins chères à faire, par rapport aux plus chères à faire. Donc, bien entendu, généralement, les plus attendues sont les plus chères à concevoir. C'est toujours comme ça.
À quand
Mais bon.
être jouable?
Hutt, un tout petit peu après de. Qu'est-ce qu'on avait fait pour le 1er avril?
Le Sarlacc.
Voilà. Un tout petit peu après le Sarlacc.
D'accord.
Voilà. Donc, bon. La décision finale, je ne la connais pas, les décisions, mais bon, c'est un peu un test pour voir quelle est vraiment la demande des joueurs et puis, bon, on peut en faire d'autres.
Ok. Une dernière question liée à l'actualité, l'actualité récente et tout petit peu à venir. Au moment où sortira l'émission, il y aura le transfert d'un serveur à l'autre qui va être effectué normalement.
Oui.
Comment est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va affecter tous les serveurs? Est-ce qu'on aura des serveurs de destination imposés? Comment ça va se passer au niveau de ce transfert de serveur?
Alors, c'est une équipe différente qui s'en occupe, c'est un peu notre équipe live, puisque c'est eux qui ont la meilleure connaissance des serveurs qui sont les pleins, des serveurs qui sont plutôt plus vides, etc. Donc, je ne suis pas tout à fait dans la boucle. Mais on essaie de faire ça pour, d'un côté, ne pas surcharger des serveurs déjà chargés, et d'un autre côté, bon, créer des serveurs avec une bonne population, puisque avoir un nombre optimum de joueurs, tout d'un coup, le jeu est beaucoup mieux pour les joueurs. Tout se passe mieux. Voilà. Trop plein ou pas assez plein, l'expérience en subit un peu quand même. Donc, a priori, ce que je sais, c'est qu'un certain nombre de serveurs on pourra bouger les quitter et puis on pourra aller sur un certain nombre d'autres serveurs. Maintenant, la logique exacte et finale, je crois qu'elle est juste elle est en train d'être finalisée pour décider quel serveur et quelle est la flexibilité pour que est-ce que les joueurs ont une toute flexibilité, etc. Mais c'est qu'une première phase. On va bien regarder comment ça se passe et puis on peut toujours ajuster les paramètres.
Alors pour terminer, est-ce que vous auriez une petite annonce exclusive à faire pour Star Universe?
Je ne sais pas si c'est un exclusif, mais on a eu pas mal de réflexions sur le mode cauchemar. Et la raison pour laquelle on n'a pas délivré des modes cauchemar sur certaines opérations avec les patchs précédents, c'est qu'on aimerait que ce soit un vrai mode plutôt que juste un petit truc un peu en plus comme ça c'est actuellement. Donc un vrai mode avec des vraies récompenses au niveau objet, au niveau titre, ce qui est déjà le cas, mais bon, c'est un peu. On a trouvé que le mode cauchemar était un peu limité, et on aimerait donc en faire un vrai mode. Voilà. Donc, je sais pas quand est-ce que ça arrive exactement, mais bon, c'est quelque chose qui est prévu pour de façon très prochaine.
Et c'est sur cette petite information que se terminera cette émission. Merci à tous les deux d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
Ben, merci beaucoup.
Merci, oui.
Nous espérons que cette émission aura intéressé nos auditeurs et nous vous disons à bientôt pour un nouveau Star Wars Univers Show.
Don't fail me again.